Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard au micro de Canal M et vous écoutez Sans détour, édition du 23 novembre. Ensemble aujourd'hui, nous allons parler de transport adapté, de transport en commun et tout ce que les aménagements urbains causés par la propagation de la COVID-19 a obligé les autorités à mettre en place et comment tout cela, malheureusement, affecte la mobilité des personnes en situation de handicap. Nous allons également parler avec Léa Desjardins-Pétrone, notre chroniqueuse en adaptation du travail. On va parler des entreprises adaptées avec Léa Desjardins-Pétrone. Nous allons par la suite faire un tour dans la MRC de Bellechasse. Nous allons discuter avec M. Colin Perrault, intervenant communautaire, d'une initiative de l'Association des personnes handicapées de Bellechasse et son projet donc qui s'appelle Virage inclusif, voir comment la MRC de Bellechasse, municipalité une par municipalité, comment tout ça, ça s'est adapté. Nous allons avoir notre revue de presse internationale avec Christiane Campagna. Nous allons également rencontrer et discuter avec Camille Chai, notre collègue qui va nous parler des gens passionnants qui l'ont passionné. Voilà, ce sera aujourd'hui sans détour. Nous sommes donc en compagnie de M. Serge Poulin, directeur général du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, le RUTA. Bonjour M. Poulin.
Et nous avons... Bonjour à vous, ainsi qu'à vos auditeurs et auditrices.
Merci. Et nous avons également le plaisir d'accueillir à notre micro M. Martin Morin, qui est directeur général de l'Association des usagers du transport adapté de Longueuil. Bonjour M. Morin.
Bonjour à vous et à vos auditeurs et vos auditrices.
Voilà, bien aujourd'hui, maintenant qu'il est tombé une petite neige, on sait ce que ça veut dire pour le transport adapté. Ça fait juste un peu plus d'encombrement sur les trottoirs. Et c'est un bon moment pour parler des aménagements urbains puis des mesures qui ont été prises. dans le cadre de la guerre à la COVID-19, les mesures qui ont été prises et malheureusement leur effet pervers sur le transport adapté et pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez des exemples?
Bien évidemment, nous, en ce qui concerne tout ce qui a été fait de vaste, donc là maintenant qui sont démantelés quand même, donc les voies actives sécuritaires qui ont été improvisées, on n'a pas tenu compte des besoins des personnes en situation de handicap, ce qui a fait en sorte que ça l'a amené beaucoup de détours, puis ça l'a énormément réduit l'accessibilité, non pas juste pour le transport adapté, mais surtout aussi pour le transport régulier, parce qu'on a énormément de personnes qui voyagent dans les réseaux réguliers. Et il y avait des différentes situations qui ont causé des problématiques assez sévères aux usagers de l'ensemble des transports collectifs montréalais. Il y a certains aménagements qui sont pris du côté de Montréal. Bon, là, je ne vous parle pas de tous les chantiers qui ont fait en sorte qu'il y a eu des détours tout l'été, c'est bien sûr, qui ont causé des problèmes. Je pense entre autres à Montréal qui a été détourné sur Saint-Joseph. Alors, pour une personne qui veut utiliser le transport ou même qui doit aller en transport adapté, ça devient problématique. Il y a tout aussi l'aménagement des réseaux express vélo qui ont...
Oui, tout à fait. On va y revenir. Monsieur Morin, à Longueuil, sur la Rive-Sud, est-ce qu'il y a eu là aussi des heurts?
Bien, évidemment, cet été, on a eu un projet là, d'aménagement sur la rue Saint-Charles et ça a causé, évidemment, diverses problématiques en ce qui a trait à l'accessibilité universelle. Là, on a eu toute une démarche faite auprès de la ville de Longueuil et du RTL en leur demandant que cet aménagement-là soit accessible. Évidemment, pour le transport régulier, le RTL a dû faire un détour qui amenait le transport à naviguer sur la 132. Évidemment, c'est pas une voie accessible et
dangereuse. Oui.
Oui.
Allez-y.
Ah, excusez-moi.
J'abondais dans votre sens. Voilà.
Oui. Mmh. Et, évidemment, pour le transport adapté, ça l'a. Que je n'ai pas nécessairement de problématique, c'était surtout par rapport au transport régulier. Donc, cet aménagement-là, il y avait cet aménagement-là sur la rue Saint-Charles et les autres aménagements qui avaient lieu, c'était surtout dans les divers parcs de la ville de Longueuil. Là. Mais nous, l'hôtel, évidemment, on a fait beaucoup, beaucoup de sensibilisation auprès de la ville de Longueuil parce que, évidemment, on n'était pas avisé de cet aménagement-là. On était avisé quasiment à la veille de cette déploiement de cet aménagement-là. Donc, on a dû faire beaucoup de sensibilisation et d'affirmer à la ville de Longueuil qu'on n'a pas été avisé et qu'on n'était pas trop de bonne humeur. Là.
Vous étiez placé devant un fait accompli. Je pense, M. Poulin, c'est un peu la même problématique avec toutes les autorités, c'est que généralement, les choses sont mises en place et après, on se dit « Ah oui, c'est vrai, ça vous ennuie. Hein? » Et puis, on vous demande comment faire pour faire le tour.
Ben exactement. Puis, ce qu'on dit tout le temps, c'est quand vous faites des aménagements, on ne s'oppose pas à l'ensemble des aménagements. Les gens ont tendance à dire qu'ils s'opposent à tout, mais ce n'est pas vrai. On veut le travailler de façon à le rendre accessible. C'est ça l'idée. Si on le travaille en amont, ça fonctionne. Une fois que c'est fait, puis on me dit « Ah, on l'avait oublié. » Ben oui, tu l'as oublié, mais c'est trop tard. Fait que là, on essaye de faire ce que j'appelle souvent du patchage, donc essayer de trouver des manières qui fonctionnent pas généralement trois quarts du temps. Alors, c'est ça l'idée. On dit toujours aux autorités, mais consultez-nous avant. On va le travailler ensemble, on va regarder, on va faire les requis qu'il faut pour que tel type d'aménagement fonctionne. Mais malheureusement, comme vous dites, on est devant le fait accompli bien souvent.
Il y a aussi peut-être une distinction à faire entre des aménagements dits temporaires, par exemple ceux de l'avenue Saint-Charles à Longueuil, qui étaient dans un cadre festif lié à l'été. On peut penser que cet aménagement temporaire démantelé pendant l'hiver pourrait revenir l'été prochain, si ça a été un succès du point de vue des commerçants.
Oui, bien, c'est dans un article du Courrier du Sud, je pense que ça a été confirmé que ça reviendrait l'année prochaine et on espère beaucoup que la ville nous consultera aussi. Puis évidemment, nous, on est en faveur de ces aménagements-là. Cependant, On souhaite travailler avec la ville de Longueuil afin que ce soit accessible à tous, pas seulement et uniquement aux personnes handicapées, mais à tous. Et on est d'accord aussi que cet aménagement-là, temporaire, soit mis de l'avant là, pour que les divers commerçants aient aussi la fréquentation de leur commerce. Là.
Mm-hmm. Par ailleurs, il y a aussi des aménagements qui, eux, sont de type temporaire, mais qui semblent devenir permanents à la longue. Il y a comme une sorte de coulage qui va du temporaire vers le permanent. Et il y a aussi des choses qui, elles, sont carrément faites pour toujours, comme on en parlait tout à l'heure brièvement, M. Poulet, on parlait du réseau express en vélo, par exemple, qui, lui, s'installe de plus en plus dans les artères de Montréal.
Ben effectivement, c'est déjà mal commencé, puis on va avoir des problèmes, notamment sur la rue Saint-Denis, éventuellement. J'ai des équipiers qui ont déjà constaté des choses, et encore là, on a été placés devant le fait accompli. Je comprends qu'on profite de la COVID pour pousser un paquet d'affaires idéologiques, là. Ça, j'ai pas de problème à ce qu'on les travaille, mais qu'on fasse les prérequis pour, puis qu'on installe ce qui est nécessaire. Puis quand vous parliez de la différence entre le permanent et le temporaire, moi je sais, M. Cardwell, il a pas arrêté de me dire ça. Je dis, M. Cardwell, il n'y a jamais plus permanent que quelque chose de temporaire.
Qui est M. Alors, Cardwell, simplement pour nous éclairer?
M. Eric Cardwell, Arlene Cardwell, est celui qui s'occupe des aménagements à Montréal, notamment de tout ce qui est qui a fait les voies actives sécuritaires,
d'accord,
qui a fait les réseaux express vélo, tout ça. Donc, que ce soit permanent ou temporaire, de toute façon, pendant le temps que c'est temporaire, ça vient nuire à 30% de la population, ce qui est quand même pas rien.
Et le rêve va continuer à s'implanter dans d'autres, sur d'autres artères de Montréal. Est-ce que vous avez l'impression que les premiers chocs des premières implantations vont donner quelques résultats, au moins pour les suivantes?
Bien, on va espérer, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur des comités. On est en train de concevoir des choses pour essayer de dire, bien, écoutez, si vous le faites de telle façon, ça prend tel requis. Donc, parce que ça va être important de s'assurer que les arrêts d'autobus soient accessibles, mais non seulement les arrêts d'autobus, mais tout, comme vous l'avez mentionné en début d'entrevue, tout le transport adapté. Si je suis pas capable d'aller débarquer quelqu'un parce qu'il y a une piste cyclable, ben comment je fais pour débarquer les personnes, où je les débarque? Faut tout que ça soit pris en compte à l'implantation de telles structures. C'est bien important.
Une autre mesure temporaire, nous l'espérons, enfin, c'est le port du masque et les questions à l'intérieur même des véhicules de transport en commun, que ce soit les autobus, les wagons de métro, la question de la distanciation, le port du masque, l'accueil aux personnes en fauteuil pour les autobus avec les plateformes. Il y a eu plusieurs ratés dès le début du confinement au printemps passé. Est-ce que depuis ce temps-là, est-ce que ça s'est arrangé? Est-ce qu'il y a eu un accommodement qui nous permet en personne avec une mobilité réduite, finalement, de prendre le transport en commun régulier?
Bien, je sais que du côté de Montréal, en tout cas, les inspecteurs n'interviennent pas de manière autoritaire face aux personnes qui sont en situation de handicap qui, pour différentes raisons, auraient de la difficulté à porter le masque. Elles vont les prévenir, mais ça en plus. On a, par exemple, eu beaucoup de recul tant qu'au siège réservé, et ça, je pense que autant du côté de chez Martin que chez nous, la CNESST et la DRSP sont intraitables. Il n'y a pas moyen de récupérer les sièges réservés derrière les chauffeurs, et ça, c'est problématique. Même si on nous dit que, oui, on a dit aux sociétés de transport d'en aménager ailleurs, mais nous, on a des cas, en tout cas, de personnes, par exemple, âgées avec une canne qui ont perdu l'équilibre pour se rendre au siège parce que le chauffeur a démarré. Donc, il y a toutes sortes de situations problématiques. Alors oui, ça cause quand même des reculs assez importants pour la clientèle ayant en situation de handicap.
On peut évidemment penser, M. Morin, que les mêmes situations ont cours à Longueuil. Est-ce que, de votre côté aussi, il y a un dialogue ou c'est la même problématique?
Nous, on a un très bon dialogue avec le RTL et évidemment, c'est la problématique du siège réservé, mais évidemment, ce n'est pas la faute du RTL, c'est surtout, on m'a confirmé que c'est la CNSST qui exige cette absence-là de siège réservé. Évidemment, on est toujours en pourparlers très régulièrement. Les deux organismes, évidemment, ont suivi les directives du gouvernement et de la santé publique. Évidemment, au niveau des couvre-visages en ce qui a trait au transport adapté et dans le transport régulier, nous, on n'a pas reçu de plainte en tant qu'organisme. Et le RTL, on m'a confirmé qu'on reçoit très peu de plaintes là,
à ce sujet. Il n'y a
jamais eu d'intercation ou à cet effet-là. Évidemment, les exigences sont toujours de mise, là, évidemment,
oui,
le lavement des mains, puis le couvre-visage, puis mais au niveau du transport adapté, les chauffeurs, ce que j'en sais, évidemment, portent aussi le couvre-visage, se lavent les mains.
Ben, c'est la moindre des choses.
Ils portent souvent assistance aussi, là, sans problème.
Très bien. Ben, je vous remercie. Je m'excuse, c'est tout le temps dont nous avons à notre disposition, messieurs. Nous avions en notre compagnie M. Serge Poulin. Merci, M. Poulin, du RUTA. Et M. Martin Morin.
Merci.
Merci, M. Poulin et M. Morin de l'OTAL. Alors, nous reparlerons de ça certainement parce que ce n'est pas fini.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Pas chaud, même si l'hiver est beau, j'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour se geler les pieds, puis c'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. J'ai pas de skidou, j'ai pas de garage, la slotch partout, moi ça m'enrage. Les grosses tempêtes qui traînent à plus finir, j'ferme toutes mes fenêtres et je veux même plus sortir. Wow, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau, j'aurai bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour se geler des pieds, pis c'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. J'suis comme un ours dans le fond de sa cage, j'cultive la mousse sur mon visage. Pas prêt, plus j'ai envie de partir, plus je me sens prêt à pas me faire engourdir. Oh, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau, j'aurai bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour se geler les pieds, c'est pour se geler les doigts, puis c'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. Dans le sud, c'est un maudit beau voyage, l'hiver est moins rude sur une plage. Le grand soleil à 50 cents par jour, ça vaut à peine d'aller faire son petit tour. Oh, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau, j'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. Hip!
De retour pour sa première chronique, notre collègue Léa Desjardins-Pétronne va nous parler aujourd'hui d'entreprises adaptées. Bonjour Léa, comment allez-vous?
Bonjour François, ça va bien vous?
Ça va très bien, merci. Alors, on va débuter au cours des prochains mois une série de chroniques qui va parler d'employabilité, de la place des personnes en situation d'handicap dans le monde du travail. Et pour commencer, parlez-nous un peu de qui vous êtes et qu'est-ce qui vous amène ici?
Oui, alors, je me nomme Léa Desjardins, comme vous l'avez dit. Je suis concierge en marketing depuis maintenant 2 ans dans 2 très belles entreprises adaptées, soit le groupe AFI Logistique et Certex. Et cette mission-là de ces entreprises m'a amenée un peu ici à aimer tellement ça, voir la place des personnes avec limitation au milieu de l'emploi. Donc, faut savoir que j'ai moi-même une malformation aux 2 bras. J'ai toujours œuvré là, dans le marché régulier de l'emploi, mais on a toute une belle, un beau nombre d'entreprises là, qui accueillent les gens avec toutes sortes de limitations pour qui c'est un peu plus difficile parfois intégrer le marché de l'emploi.
Et il s'agit donc du groupe AFI, A-F-F-I, qui est une entreprise dans la logistique, c'est-à-dire dans la manutention de marchandises, le transport, la livraison. Et l'autre compagnie s'appelle Certex, vous m'avez dit, qui est, elle, est plutôt, je pense, dans le recyclage, dans les textiles et des fonctions de ce genre.
Tout à fait. Donc, deux entreprises, mais il y en a aussi partout au Québec. Mm-hmm. On compte maintenant 38 entreprises adaptées dans tout le Québec. C'est ce qui équivaut à 62 places d'affaires. Donc, dans toutes les régions, on retrouve des entreprises un peu comme Groupe AFI, Logistique et Certex qui vont œuvrer là, dans différents secteurs d'activité très diversifiés, là, que ce soit bon, un peu comme Groupe AFI Logistique, l'emballage, la manutention ou la récupération. Le réemploi textile comme Certex, mais on a aussi des gens qui sont dans l'entretien ménager, dans la couture industrielle, fourniture de bureaux, l'industrie du bois, l'impression, etc. Là, on dit que c'est vraiment plus de 200 produits et services qui sont offerts là, soit à la population générale ou encore là, à d'autres entreprises de la part des entreprises adaptées.
Ça représente combien d'emplois au total, toute cette activité économique répartie dans une soixantaine de places d'affaires?
L'ensemble du réseau des entreprises adaptées, c'est 5000 travailleurs et donc 4000 environ avec des limitations de toutes sortes, là, que ce soit physique, mentale ou intellectuelle.
Et tous ces gens-là ont réussi à trouver leur place au soleil, si on peut dire, parce que c'était des entreprises qui, elles, étaient conçues pour accueillir, qui avaient comme mission sociale dans leur credo, l'inclusion étant une valeur importante à leurs yeux, ces entreprises-là se sont adaptées plutôt que l'inverse. Est-ce que ça demande évidemment, parfois selon l'handicap de la personne employée, ça doit demander pas mal d'efforts de la part de l'employeur?
En fait, c'est les entreprises adaptées, c'est vraiment leur mission là, de créer des emplois et de les maintenir aussi pour les personnes avec limitation. Donc, on adapte ça, bien sûr. Les employeurs sont habitués, c'est à même la mission. Donc, que ce soit au niveau de l'accompagnement des personnes avec limitation, la plupart des entreprises adaptées ont des intervenants psychosociaux pour les aider aider les gens dans leur cheminement, dans leur intégration. Tous les superviseurs sont formés aussi pour gérer des personnes avec limitation. Même l'intégration des personnes, elle est facilitée, si on peut dire. On parle d'intégration progressive souvent ou encore de donner plus de temps pour apprendre les tâches. Il y a aussi l'aménagement des lieux de travail, naturellement, qui sont accessibles. Puis même, on travaille avec différents partenariats également. Je peux vous donner l'exemple de Kervin, le réceptionniste de groupe AFI Logistique, qui, lui, est malvoyant. Et donc, il y a une intervenante de l'Institut Nazareth et Libra qui est venue l'aider à adapter là, son poste à la réception pour lui. Donc, bref, on s'adapte vraiment selon les types de limitations, mais aussi selon la personne. Je pense qu'au-delà du type de limitation, c'est vraiment de voir chaque personne, qu'est-ce qu'elle peut faire et de mettre de l'avant ses forces.
C'est de savoir comment mettre de l'avant ce que la personne peut amener à l'entreprise et de s'y conformer. Je pense qu'il y a des belles histoires aussi de productivité. C'est un mythe de penser que les personnes qui sont en situation d'handicap au moment d'être en poste au travail vont être moins productifs, vont moins bien faire.
Effectivement, il y a des mythes à ce sujet-là. Et même, je dirais que dans les dernières années, là, on a parlé beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, par exemple, surtout dans des postes qui nécessitent, par exemple, moins de formation, des postes plus répétitifs. Eh bien, pour nos personnes, par exemple, qui sont anxieux, avoir un emploi qui est répétitif, donc être sur une chaîne de production et emballer la même chose jour après jour, par exemple, peut être excessivement rassurant. Et eux, ils sont bons à faire ça. Donc, on prend vraiment ce en quoi chaque personne est bonne pour lui trouver là une bonne une tâche qui va lui convenir, un poste qui va lui convenir, qui va lui permettre de s'épanouir.
Et comment quelqu'un peut poser sa candidature? Comment est-ce qu'on met le pied dans la place?
Il faut d'abord effectuer un processus là, de recherche d'emploi auprès d'un service spécialisé de main-d'œuvre qu'on appelle un CEMO. Mais pour le faire, là, le meilleur truc que je donnerais à quelqu'un, ça serait de se rendre sur le site du Conseil québécois des entreprises adaptées, qui est le regroupement de toutes les 38 entreprises adaptées, et pour trouver l'entreprise adaptée la plus près de chez lui. Comme ça, on peut entrer directement avec l'entreprise en contact avec l'entreprise adaptée. Puis à ce moment-là, l'entreprise va être capable de référer au centre spécialisé de main-d'œuvre le plus proche de chez lui. Donc, le site Internet à retenir, là, c'est vraiment CQEA.ca. Donc, le Conseil québécois des entreprises adaptées, site web sur lequel se trouve notamment une fiche des emplois disponibles qui est mise à jour à tous les mois par région administrative. Puis aussi, je vous invite là, à regarder en bonus les vidéos des employés du réseau, donc des témoignages qui sont fort inspirants.
Comment un entrepreneur dont l'entreprise aujourd'hui n'est pas adaptée, mais qui souhaiterait, parce qu'il a une conscience sociale éveillée, de rendre son entreprise accessible, que lui ou elle aussi, à titre d'entrepreneur, elle souhaiterait ouvrir ses portes à une clientèle ou à une population de travailleurs, travailleuses, qui seraient des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on peut convertir une entreprise existante à une plus grande accessibilité?
Je verrais cette question-là en deux volets. En fait, pour être une entreprise dite adaptée, là, du réseau des entreprises adaptées, il faut avoir plus de 60 % de la main-d'œuvre qui a une limitation.
Ah,
donc, souvent, convertir du jour au lendemain, c'est peut-être plus difficile, mais ça se fait. Dans le fond, encore une fois, là, je référais au même site du réseau, en fait, du Conseil québécois des entreprises adaptées, qui a vraiment une partie qui explique là, un peu les règles, mais sinon, c'est sûr que qu'on peut aussi donner des conseils par rapport à comment rendre un peu plus accessibles les entreprises pour toutes sortes de personnes dans la population. Puis c'est toujours aussi une tendance là, quand même en ressources humaines là, de la diversité. C'est souvent très riche en entreprise d'avoir des gens de toutes sortes d'horizons. Je pense entre autres de plus en plus, là, on parle de neurotypie ou tout ça, mais il y a des gens de toutes sortes là, dans les entreprises, et c'est ce qui souvent enrichit là, les milieux de travail.
Parce qu'il ne faut pas oublier que cet emploi donne évidemment une fierté, un sens, je dirais, de réalisation à la personne qui maintenant travaille et gagne sa vie. Et de cette manière, elle ne sera plus perçue par elle-même et par les autres comme étant un fardeau, mais plutôt une contribution positive. Ben, je vous remercie beaucoup, Léa Desjardins Petron. On aura l'occasion de se reparler à nouveau au cours des prochaines semaines, des prochains mois, parce que vous allez revenir nous parler d'employabilité, d'entreprise adaptée et d'accessibilité. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Bonne journée.
Écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Rebonjour. Maintenant, nous allons faire un petit voyage à l'extérieur de la grande région de Montréal. Nous allons dans Bellechasse, la MRC de Bellechasse, pour ceux que la géographie québécoise déroute un peu. C'est sur la rive sud du Saint-Laurent, un petit peu en aval de Québec. Et nous avons en notre compagnie M. Colin Perrault, qui est intervenant communautaire auprès de l'Association des personnes handicapées de Bellechasse, et nous allons parler d'un projet Virage inclusif. Bonjour, M. Perrault, comment allez-vous?
Oui, bonjour, M. Beauregard. Ça va très bien, merci.
Super. Alors, il faut comprendre un peu la cartographie de la MRC Bellechasse. Il s'agit finalement de nombreuses petites municipalités. Il n'y a pas un grand centre, mais c'est une vingtaine de petites villes, n'est-ce pas?
Exactement. On est, vous l'avez très bien décrit, on est au sud du Saint-Laurent, on est au sud de Lévis. Quand vous passez sur l'autoroute 20 près de Québec, bien, vous passez Lévis. Ensuite, il y a des villages comme Beaumont, Saint-Michel, Saint-Vallier, jusqu'à Montmagny. Mais ça, c'est tous des villages qui sont dans la MRC de Bellechasse. Mais la MRC de Bellechasse part du fleuve puis monte vers le sud, vers les Appalaches, jusque dans les Appalaches, environ, je dirais, 65-70 kilomètres dans les terres. Puis ça englobe 20 villages plutôt, dans la MRC de Bellechasse.
Et maintenant, vous avez été capable de mettre tous ces gens-là autour de la table, je dirais, un par un, une par une, parce que votre association des personnes handicapées de Bellechasse, vous avez quand même une population de quoi, une trentaine de mille, avec quand même un nombre suffisamment important de personnes handicapées pour que vous soyez un interlocuteur crédible.
Oui, exactement. Déjà, on était assez connus dans la région ici. On existe depuis plus de 35 ans. On était un des premiers organismes communautaires, d'ailleurs, dans la MRC ici. Et déjà, on offrait beaucoup de services à nos membres, autant des enfants que des adultes avec différents types d'handicap. Et on a voulu étendre un peu, je dirais, nos bras puis aller dans les milieux de vie, dans les communautés, pour soutenir les initiatives dans les villages, pour aussi promouvoir l'inclusion et l'accessibilité universelle. On a voulu finalement aussi offrir un peu de toute l'information, toutes les recherches qu'on fait, toutes les réalités qu'on voit sur le terrain. Bien, on voulait pouvoir partager plus avec les milieux municipaux, avec les milieux aussi économiques. Alors, c'est pour ça que petit à petit, on est allé rencontrer chacune des municipalités. Puis on a rencontré parfois les élus, parfois on a rencontré les employés comme les directions générales, les responsables de loisirs. Parfois on rencontrait des citoyens aussi. Et on voulait être à l'écoute premièrement de... Je parle au passé, mais c'est au présent parce qu'on le fait encore. Le virage inclusif est encore quelque chose dans lequel on travaille ensemble dans la région ici encore. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre puis on écoute quels sont les besoins. Puis aussi, est-ce que les milieux connaissent la réalité, la diversité de la réalité de différentes personnes dans leur milieu? Alors, on écoute les besoins, on écoute les réalités, et ensuite, on fait aussi des suggestions, des propositions aux municipalités pour dire, avez-vous pensé, par exemple, à tel aménagement pour rendre vos installations accessibles, vos infrastructures?
Parce que je voulais dire, c'est que d'une municipalité à l'autre, l'état des lieux, quand vous avez commencé à ce virage inclusif, il y avait peut-être des endroits où il n'y avait rien du tout, pas de rampe pour la salle communautaire ou pas de site web accessible ou de façon de vous inscrire au programme de la municipalité, alors que d'autres étaient peut-être déjà un petit peu plus avancés dans ce chemin-là.
Oui, exactement. Côté accessibilité, effectivement, certaines municipalités avaient déjà fait certains travaux, étaient peut-être déjà assez sensibilisées pour différentes raisons. Parfois, c'est des personnes dans la municipalité qui sont impliquées dans la municipalité qui vivent avec un handicap ou qui a quelqu'un dans leur entourage, donc qui étaient plus sensibilisées. Puis aussi, il y a tout le côté social, le côté de l'inclusion de personnes qui vivent avec un handicap. Puis c'est un peu la même chose. Pas tout le monde qui a les mêmes expériences. Aussi, il y a certaines municipalités qui ont des foyers, qui ont eu déjà l'expérience d'accueillir, d'inclure des personnes avec différents handicaps, donc qui ont pu faire, on pourrait dire, qui ont pu plus travailler là-dessus, qui ont pu soit développer des infrastructures, des projets, etc. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est sûr, qui avaient besoin de plus être sensibilisé à cette réalité-là puis aux possibilités qu'on peut faire. Alors vraiment, mais ce qu'on a bien aimé en se promenant dans la Bellechasse, puis c'est pour ça que le virage inclusif, c'est pas un projet qu'on voit simplement comme un projet de l'RPHB, mais maintenant que les 20 municipalités ont adhéré, on dit que c'est un projet qui est à tout le monde, qui est à toutes les municipalités. Il nous appartient tous, puis ça nous appartient aussi de le développer.
C'est l'Association des personnes handicapées de Bellechasse qui a démarré le projet, c'est l'initiative qui vient de l'association, mais maintenant... Ce que vous dites, c'est que c'est toute la MRC de Bellechasse a embarqué là-dedans. C'est comme une politique des petits pas. Vous avez fait beaucoup de porte-à-porte, cogné auprès de plusieurs organismes, plusieurs conseils municipaux, plusieurs intervenants dans le milieu pour faire votre marque. Et puis maintenant, bien, c'est plutôt ceux qui n'ont pas rien fait jusqu'à maintenant qui ont l'air un peu fous.
Oui, heureusement, dans notre MRC... je trouve pas qu'il y a personne qui a de l'air trop fou pour l'instant. Okay. Tout le monde a adhéré, fait que ça, je suis bien content. J'ai l'impression qu'on est tous dans le même bateau, toutes les municipalités, puis aussi la MRC de Bellechasse aussi, quand elle a vu que les 20 municipalités avaient adhéré, elle a porté un intérêt. Mm-hmm. Elle aussi, comme la municipalité régionale de Comté, qui offre beaucoup de services aux municipalités, a dit « Nous aussi, on veut embarquer dans ce moment-là. » Alors, on pourrait dire qu'on a 21 municipalités si on inclut la MRC. Alors c'est ça, on est juste content que tout le monde soit dans le bateau et qu'on avance ensemble là-dedans maintenant.
Je pense que plus récemment, il y avait un programme du gouvernement provincial qui était « Ensemble contre l'intimidation ». Et vous avez participer à ce programme-là maintenant?
Mm-hmm. Ben, on a eu une annonce qu'on recevait du financement pour ce programme-là, effectivement, je crois, cet été. Mm-hmm. Étant donné le contexte en ce moment, on n'a pas pu, puis c'est un projet qui est en collaboration avec le milieu scolaire, entre autres. Alors, pour l'instant, on n'a pas pu mettre de l'avant, mais c'est quelque chose qu'on trouve vraiment important. Nous, à l'APHB, on fait des répits, on a un camp de jour aussi pour des jeunes. On sait que l'intimidation, c'est quelque chose qui existe. Souvent, c'est de l'incompréhension, de la peur, de l'ignorance, etc. Ça fait qu'on avait vraiment envie d'aller dans le milieu scolaire pour faciliter la rencontre, finalement. La rencontre, puis qu'ils connaissent, finalement, les jeunes qui ont soit un handicap physique ou une déficience intellectuelle ou le trouble du spectre de l'autisme, etc., puis qu'ils voient, finalement, que connaître ces jeunes-là, c'est un cadeau. C'est réellement un cadeau d'être en relation avec eux si on ose faire un pas vers eux.
Et de cette manière-là, vous êtes rendu au-delà d'une inclusion physique, parce que je suppose qu'au début, c'était plutôt des rampes d'accès ou des aménagements urbains de ce genre-là. Vous avez eu à demander ou à suggérer et maintenant, vous êtes rendu plutôt dans une acceptation sociale. C'est pas mal plus large.
Oui, c'est ça. On essaye de vraiment... je ne sais pas si c'est une vision qui est partagée, mais j'essaie de voir ça comme un ensemble. C'est-à-dire, si on rend nos installations plus accessibles, si on met de l'avant l'accessibilité universelle, automatiquement, on est en train de dire « je pense à toi et je veux que tu participes ». Ou quand on va voir un jeune et on lui dit « hey, je veux que tu viennes jouer avec moi », on fait la même chose. C'est toute une façon de dire « tu as ta place, tu peux participer, tu es important ». C'est ça, pour moi, en termes très simples, c'est ça qu'on fait autant dans des aménagements que quand on fait des programmes qui sont adaptés à des jeunes. Par exemple, un camp de jour où on prend la peine de trouver, par exemple, un accompagnateur pour un jeune qui a besoin d'accompagnement dans un camp de jour.
Alors, de cette manière-là, ben, vous l'invitez à venir jouer avec tout le monde. Et si, en plus, ben, il y a une rampe d'accès pour arriver au plancher du gymnase, ben là, ça fait du sens. Tout ça se tient ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres associations? Parce que vous avez eu à relever le défi d'un certain éclatement, je dirais, physique, étant donné que votre municipalité régionale est quand même une dissémination dans le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, à votre connaissance, au Québec, d'associations comme la vôtre, dans des milieux ruraux ou de petites municipalités qui ont été capables de faire le même cheminement que vous avez réussi?
Je vous dirais que ça, c'est quelque chose dans lequel je suis pas un spécialiste. J'ai certainement lu des exemples. Mes collègues aussi à la PHB, je sais, ont été, ma collègue Catherine Patnaud a été en lien avec d'autres municipalités, avec d'autres régions pour s'inspirer parce que on va faire une phase 2 à ce projet aussi.
Ah oui?
Puis on a contacté plusieurs organismes, des gens dans d'autres régions. Puis oui, il y a des choses qui se font, mais je vous dirais, le virage inclusif, vraiment, ça a été un projet de collaboration de plusieurs personnes. Moi, je suis arrivé à la PHB il y a un peu moins de 3 ans, puis ce projet-là était déjà était sur papier. Puis on m'a demandé de le prendre puis de le rendre vivant. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, moi, je suis une partie là, de tout ce mécanisme-là. Puis les municipalités en sont d'autres. Il y a plusieurs personnes qui font des choses super intéressantes. Je vous dirais, dans le virage inclusif, on s'est inspiré. Je sais qu'à un moment donné, on cherchait des exemples de collaboration entre les camps de jour puis le milieu scolaire. pour permettre aux camps de jour municipaux de mieux s'adapter à certains jeunes qui ont des besoins spéciaux. Puis on s'est inspiré, par exemple, de ce qui se faisait en Beauce, où il y avait une collaboration entre le système scolaire et les municipalités pour mieux se passer des informations aussi en incluant les parents aussi. Alors, on s'est inspiré, par exemple, de ça en Beauce. On s'est inspiré de plusieurs choses d'organismes comme Alter Ego à Montréal avec leur guide. Parce que sur notre onglet Virage Inclusif, sur notre site, je vais faire un petit plug, sur notre site APH Bellechasse, on a un onglet Virage Inclusif, puis on a mis des ressources qu'on a trouvées dans plein d'organismes, puis de différentes sources qu'on trouvait qui étaient intéressantes.
Ah, bien, c'est formidable. Je vous remercie beaucoup, M. Colin Perrault, qui est intervenant communautaire auprès de l'Association des personnes handicapées de Bellechasse. On a parlé du projet Virage Inclusif. Vous avez ouvert la porte à une phase 2. Il va falloir que vous veniez nous en reparler plus tard au cours de la saison. À noter que l'Association des personnes handicapées de Bellechasse est finaliste au prix à part entière dans la catégorie organisme, prix qui va être remis plus tard cet hiver par l'Office des personnes handicapées du Québec. Monsieur Perrault, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, Monsieur Beauregard, pour votre curiosité. Bonjour à tous vos auditeurs. We'll be right back.
De retour pour une revue de presse internationale, sujet de l'inclusion sociale et de tout ce qui se passe dans l'univers pour qui nous intéresse. Et avec ça, on va avoir avec nous Mme Christiane Campagna, notre recherchiste émérite. Bonjour Christiane, comment allez-vous?
Bonjour François, ça va très bien toi?
Ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde?
Ben, j'ai découvert l'existence d'un livre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des IKEA Hacks, qu'on pourrait traduire, dépendamment des cas, par des transformations qu'on fait à des meubles IKEA ou même des détournements de leur usage prévu?
IKEA déconstruit et reconstruit.
Voilà, soit pour lui donner des airs plus luxueux, pour l'utiliser pour une fonction complètement différente. C'est très, très populaire sur Internet. Et là, il y a un livre qui est paru, qui est l'œuvre du cabinet d'architecture Lecker Architects et la société de design Lanzavecchia, qui a créé un livre où tous ces détournements, toutes ces transformations-là de meubles IKEA sont conçus pour aider à améliorer la vie des personnes qui vivent avec la démence et la vie de leurs proches aidants. C'est une fondation basée à Singapour qui s'appelle la Fondation Lien qui les a chargés de ce projet-là. Ça a donné un manuel de 240 pages qui est rempli d'idées pour aider les aidants à créer un espace qui est à la fois sécurisé et plus pratique pour les personnes qui vivent avec différentes formes de démence, mais aussi avec un déclin physique qui vient généralement avec. Les 50 astuces qu'on trouve dans le livre sont présentées dans un livre qui a le style d'un catalogue IKEA pour rendre ça attrayant puis faire un beau clin d'œil. Et il comprend cependant aussi là, des petits essais et des histoires sur ce qu'est la vie avec une démence, un trouble cérébral dégénératif qui affecte plus de 50 millions de personnes dans le monde.
Parce qu'on peut penser que c'est vrai que les meubles IKEA souvent sont assez anguleux. Alors, et déjà en soi, si pour l'expérience d'une personne handicapée visuelle, si vous vous penchez pour ramasser un crayon, recevoir un coin de table dans le front, c'est douloureux. Alors, ce catalogue-là, on peut refaire ces meubles-là. Est-ce qu'on a besoin d'une simple clé Allen, comme tous les meubles IKEA?
Peut-être un petit peu, j'ai pas eu accès au livre, là, malheureusement, mais on y montre comment rendre une planche à découper plus sécuritaire, pour qu'elle bouge moins. Comment transformer un fauteuil pour que ce soit plus facile de s'y asseoir et de se relever. Ce que disent les auteurs et la Fondation, c'est que, bon, il y a 50 astuces dans ce livre-là, mais l'idée, c'est d'inspirer, d'amener ce réflexe-là de regarder un meuble. On a choisi IKEA parce qu'ils sont abordables et de dire, j'ai pas à le prendre tel quel. Je pourrais le transformer, soyons créatifs, pour le rendre plus adapté aux aidants et aux aidés.
Et ça, c'est pour les personnes, c'est destiné aux aidants et aux familles, les proches aidants de personnes qui sont en situation d'une démence progressive. Il pourrait y avoir aussi des applications dans d'autres types de situations d'handicap qui pourraient s'appliquer un jour. Alors, en fait, c'est comme un gros jeu de Lego. On peut leur défaire puis leur construire comme on veut pour donner accès.
Voilà. Ce qu'on dit, c'est que généralement, il y a des articles universitaires qui donnent des lignes directrices, qui ont étudié comment il faudrait adapter les choses, mais ça manque de concret pour que les gens puissent le réaliser chez eux. Alors, c'est l'objectif de ce livre-là.
Il n'y a rien de plus concret que quelques bons panneaux de bois agglomérés et une clé Allen. Par ailleurs, on parle encore aujourd'hui du président élu, M. Joe Biden.
En fait, on parle plutôt de celui qui est toujours là, de son administration, puisqu'il a fallu une poursuite d'un organisme pour obtenir l'interprétation en American Sign Language durant les points de presse de la Maison-Blanche au sujet de la COVID-19. C'est donc vendredi, le 13 novembre dernier, que pour la première fois, dans le briefing en direct, on avait de l'interprétation en ASL. Fin septembre, l'Association nationale des sourds a remporté un procès au niveau fédéral et le juge a décidé qu'à partir du 1er octobre, il devait y avoir de l'interprétation. Là, je ne sais pas ce qui a causé le délai. Des fois, c'est que les briefings ne sont pas toujours fréquents. C'est peut-être tout simplement...
C'est aussi que les briefings parfois étaient décousus. Et je peux comprendre que l'interprète en American Sign Language devait avoir de la difficulté à suivre les conversations ou les avancées tout azimuts.
Mais en fait, c'est pour ça que les organismes demandent ça, parce que la Maison-Blanche disait « oui, mais on a des sous-titres ». Mais les sous-titres ont plusieurs inconvénients. Tout d'abord, les personnes qui sont sourdes de naissance ou depuis l'enfance ne maîtrisent pas toujours bien la langue anglaise écrite particulièrement. Et justement, quand c'est un peu décousu, ben c'est peut-être plus facile par un interprète qui peut y ajouter des expressions faciales, des émotions, que des sous-titres écrits en direct qui vont souvent comporter plusieurs erreurs.
Ils sont littéraux.
Littéraux, mais aussi dans le feu de l'action, c'est plus facile de faire des fautes. Et on parle d'informations cruciales, on parle d'informations pour préserver sa santé, pour sauver des vies. Donc, on trouvait que le juge a décidé que ça allait carrément à l'encontre du premier amendement, que ça ne soit pas disponible. Ça allait sans doute aussi à l'encontre de l'American with Disability
Act. Ça semblait peut-être aller à l'encontre de beaucoup de choses. Et heureusement, bon, on sait que la nouvelle administration semble plus ouverte. On l'a vu la semaine dernière, au moment des premières allocutions de M. Biden, plus ouverte à la situation des personnes en situation de handicap, plus ouverte à avoir une inclusivité dans la société américaine en allant de l'avant.
Généralement, dans les différents États, quand les gouverneurs prennent la parole, que ce soit pour un ouragan, ça a été le cas pour la COVID, il y a de l'interprétation en ASL. Alors, il a fallu travailler pour obtenir ça du côté de la Maison-Blanche.
Voilà. Bon, on espère que ça va tenir. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui retiennent notre attention? Sinon, on va parler à notre collègue Camille Chai. Camille, on le sait, est animatrice de l'émission Les Passions de Camille, qui sont l'émission qui est présentée le vendredi midi à Canal M. Et à chaque semaine, Camille rencontre des personnes remarquables qui ont des parcours inspirants, qui sont passionnées de ce qu'ils font. Alors, Camille, vous êtes avec nous?
Bien sûr que je suis avec vous, François.
Bonjour. Alors, qui rencontrez-vous au courant des prochaines semaines?
Alors, cette semaine, donc le 27 novembre, je rencontre, comme tu l'as dit, des personnes qui ont toujours des parcours inspirants. On va commencer avec Sandra Hull. C'est une femme qui a dans la quarantaine. Elle est auteure, conférencière et en fait, je vous donne tout de suite le titre de son livre pour ceux qui pourraient être intéressés, c'est « Plus grande que nature ». Et le titre de son livre nous révèle un peu des informations sur elle parce que Sandra a été diagnostiquée à l'âge de 5 ans avec le syndrome de Morquio, qui est une maladie dégénérative très rare, mais c'est une forme de nanisme. Alors, je trouve ça magnifique, son livre qui dit « Je suis plus grande que nature » parce qu'au final, elle ne s'arrête pas à son corps physique, mais plutôt à la femme entière qu'elle est. Donc ça, c'est notre premier invité pour ce vendredi. Et le deuxième invité s'appelle Marc-Olivier Savard. Lui, c'est un étudiant de 22 ans et son histoire est assez incroyable parce que Marc-Olivier vit avec la paralysie cérébrale.
D'accord.
Et croyez-le ou non, mais Marc-Olivier est en fauteuil roulant motorisé. Mm-hmm. Et cet été, son fauteuil est tombé dans sa piscine.
Dans sa piscine?
Oui.
Ah, OK. Ben, il faut comprendre. Je serais curieux de savoir comment il s'y est pris.
Ben, oui.
Manque de frein ou inattention?
Oui, mais en fait, c'est incroyable. Lui-même, en fait, se pose encore un peu la question aujourd'hui, mais il pense qu'en fait, il avait laissé la commande de son fauteuil ouverte. Donc, il a oublié de le mettre à off et il pense que la serviette qui était posée sur la télécommande a été poussé à cause du vent.
D'accord. Et ça l'a simplement poussé un petit peu la manette vers le devant, son doigt qui était appuyé.
Exactement, François. Donc, c'est dur à imaginer, mais oui, il faut croire que, il a été poussé juste, malheureusement, assez trop pour que le fauteuil se dirige dans la piscine où lui se trouvait à ce moment-là.
Oui, d'accord. Mais là, son fauteuil doit être foutu. Un fauteuil électrique dans une piscine, ça fait pas bon ménage.
Non, exactement. Il a été déclaré perte totale. Mais ce qui est incroyable, c'est que Marc-Olivier s'est retourné vers les campagnes de sociofinancement.
Okay.
Et c'est fou à quel point ça peut servir à de belles et de grandes choses. Marc-Olivier, en 72 heures, il a réussi à amasser 7 500 $.
D'accord.
Oui, donc c'est quand même impressionnant.
Voilà, parce que, d'abord, je suis heureux de savoir que Marc-Olivier n'était pas dans le fauteuil quand il est tombé de la piscine.
Oui,
ça, c'était la première chose qui m'a traversé l'esprit. Alors, tant mieux que ça s'est bien terminé. Et il a utilisé le sociofinancement. Et ça, c'est une façon simple, moderne. Et si c'est pour une belle cause, tant mieux.
En plus, il a fait d'une pierre deux coups parce qu'en plus de pouvoir repayer donc son fauteuil motorisé, il a pu se payer une vanne adaptée. Alors, c'est le meilleur des deux mondes.
Voilà. Et quelques 10 jours plus tard, une semaine plus tard, vous allez rencontrer Marc-André Laurier-Thibault et Karine Martin.
Exactement. Alors, Marc-André, lui, c'est un homme de 38 ans. Il est conseiller en affaires publiques et gouvernementales. Lui aussi vit avec la paralysie cérébrale, mais la plupart du temps, lui, il se déplace pas en fauteuil roulant. Donc, il nous dit qu'évidemment, il va être plus facilement déséquilibré. Et il nous parle, François, à quel point l'hiver, hein, peu importe notre différence ou notre handicap, voilà, on a tous des obstacles plus ou moins différents. Et lui nous raconte à quel point, ben, je veux dire, il tombe très souvent sur la glace. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il amène avec lui les personnes qui veulent l'aider. Il s'est déjà retrouvé dans des situations où les personnes qui voulaient l'aider tombaient avec lui. Donc, ça créait toute une situation.
Oui, on joue aux quilles, là. Ouais.
Oui, c'est ça, c'est un petit peu ça. On le dit en rigolant, on reste que sur le moment.
Ben, on peut se faire mal.
Oui, puis c'est un défi, c'est une difficulté, mais voilà. Il nous mentionne justement l'importance de... Bon, de dire que ça fait partie du handicap, ça fait partie de la réalité, c'est comme ça. La dernière invitée, donc deux semaines plus tard, s'appelle Karine Martin. C'est une femme d'à peu près 40 ans. Elle vit avec la maladie de l'ataxie de Friedreich.
Est-ce que tu connais ça, François? Oui, tout à fait, c'est lourd. Mais je suis désolé, Camille, il va falloir que nous nous arrêtions maintenant et que pour en savoir davantage, on écoutera ton émission le 27 novembre et le 4 décembre. Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui à Sans détour et je m'en voudrais de ne pas souligner l'extraordinaire collaboration de Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, ainsi que notre recherchiste, chroniqueuse extraordinaire, Christiane Campagna. Merci tout le monde et à la semaine prochaine.